Chapitre 8, où l'histoire rétrograde. Avant de poursuivre le cours de notre histoire, il peut être utile de regarder un peu en arrière pour rendre compte de l'apparition extraordinaire de Sophie et de son père à l'auberge d'Upton. Le lecteur voudra bien se souvenir que dans le 9e chapitre du 7e livre de notre histoire, nous avons laissé Sophie, après un long débat entre l'amour et le devoir, décidant la cause, comme il arrive, je crois, ordinairement, en faveur du premier. Ce débat s'était élevé, comme nous l'avons fait voir alors, à la suite d'une visite que son père venait de lui faire pour la forcer de consentir à son mariage avec Blifil, promesse dont l'accomplissement lui paraissait infaillible, puisqu'il l'avait entendu reconnaître qu'elle ne pouvait ni ne devait refuser d'obéir à ses ordres absolus, quels qu'ils puissent être. Après cette visite du soir, Weston, enchanté du succès qu'il avait obtenu auprès de sa fille, se retira chez lui et se mit à boire comme à son ordinaire. Comme il était d'un caractère social, voulant faire partager son bonheur à tous ses gens, il ordonna que la bière coulât à flots dans la cuisine, de sorte qu'avant 11 heures du soir, il n'y avait personne dans la maison qui ne fût ivre, excepté Mrs. Weston et Sophie. Le lendemain matin, de bonne heure, un messager fut dépêché à M. Blifil pour l'engager à venir, car bien que M. Weston pensât que ce jeune homme était beaucoup moins instruit de l'aversion de sa fille qu'il ne l'était réellement, il avait la plus grande impatience de lui faire part du prétendu consentement de Sophie, ne doutant pas que sa future épouse ne le lui confirmât de sa propre bouche. Quant au mariage, il avait été convenu la veille au soir, mais entre hommes seulement, que la célébration s'en ferait le surlendemain matin. Le déjeuner était servi dans le parloir où M. Blifil attendait depuis quelque temps et où M. Weston et sa sœur étaient réunis. Alors on donna ordre d'avertir Sophie. « Oh Shakespeare, que neige ta plume ! Hogarth, que neige ton pinceau ! Je pourrais faire le portrait du pauvre domestique qui, le visage pâle, les yeux égarés, la bouche convulsive, parlant avec peine et tremblant de tout son cœur, entra et annonça qu'on ne pouvait pas trouver Madame Sophie. « On ne peut pas la trouver !» s'écria Weston en se levant brusquement. « Tonnerre et damnation, sang et furie ! Où ? Quand ? Comment ? Quoi ? On ne peut la trouver ? Où ?»« Là, là, mon frère, » dit Mrs. Weston avec un sang-froid vraiment politique. Vous vous mettez toujours dans la plus violente fureur pour rien. Ma nièce est peut-être tout simplement à se promener dans le jardin. Je déclare que vous êtes devenu si déraisonnable qu'il est impossible de vivre dans la même maison avec vous. Allons, allons, répondit Weston, rentrant en lui-même aussi promptement qu'il s'était emporté. Si c'est là tout, cela ne signifie pas grand-chose. Mais sur mon âme, j'ai perdu tout à fait l'esprit quand ce garçon est venu dire qu'on ne pouvait la trouver. Ensuite, il donna ordre de sonner la cloche du jardin et s'assit patiemment. Il serait impossible de trouver un plus parfait contraste que celui qui existait entre le frère et la sœur dans presque tous les points, notamment celui-ci, que le frère ne prévoyait jamais rien de loin, mais avait une extrême sagacité pour voir tout d'un coup les choses au moment où elles arrivaient, au lieu que la sœur prévoyait parfaitement tout ce qui devait arriver dans l'avenir le plus éloigné, mais n'avait pas la vue si pénétrante pour apercevoir les objets qui étaient devant ses yeux. Le lecteur peut déjà avoir observé les divers exemples qu'ils nous en ont fournis. Et il faut en convenir, ils possédaient l'un et l'autre leur talent mutuel à un degré excessif. Car la sœur prévoyait souvent ce qui ne devait jamais arriver, et le frère en voyait souvent beaucoup plus qu'il n'y en avait réellement. Cela n'eut pas lieu cependant dans la circonstance présente. On ne fut pas plus heureux dans le jardin qu'on ne l'avait été dans la chambre. On vint annoncer qu'on ne pouvait trouver Madame Sophie. Weston sortit alors lui-même et se mit à rugir le nom de Sophie avec des cris aussi forts et aussi horribles que ceux que fit entendre Hercule en appelant Hylas. Et comme le poète nous dit que tout le rivage répéta le nom de ce beau jeune homme, ainsi la maison, le jardin et tous les champs alentour ne retentirent que du nom de Sophie, prononcé par les voix rauques des hommes et les fossés aigus des femmes. Écho, cependant, semblait tellement se plaire à répéter ce nom charmant que s'il existe réellement une divinité de cette nature, J'ai tout lieu de croire qu'Ovide nous a trompés sur son sexe. » Tout resta pendant longtemps dans la plus horrible confusion. Mais enfin, M. Weston, ayant suffisamment épuisé sa poitrine, rentra dans le parloir, où il trouva Mrs. Weston avec M. Blifil, et, le visage extrêmement abattu, se jeta dans un grand fauteuil. Mrs. Weston, le voyant en cet état, se mit à le consoler en ces termes. « Mon frère, je suis fâché de ce qui vient d'arriver, et que ma nièce se soit conduite d'une manière si outrageante pour sa famille. Mais tout cela est votre ouvrage, et vous n'avez à en féliciter que vous-même. Vous savez qu'elle a toujours été élevée dans des principes directement contraires aux miens, et vous en voyez aujourd'hui la conséquence. Ne vous ai-je pas mille fois reproché de ce que vous la laissiez toujours faire sa volonté? Mais vous savez que je n'ai jamais pu rien gagner sur vous. Et lorsque j'avais pris tant de peine pour déraciner en elle ce vice d'entêtement et rectifier vos erreurs en politique, vous savez qu'elle a été arrachée de mes mains, en sorte que je ne suis responsable de rien. Si l'on m'avait entièrement confié le soin de son éducation, un accident pareil à celui-ci ne vous serait jamais arrivé. Ainsi, vous devez vous consoler en pensant que ceci est votre propre ouvrage. Et, en effet, pouvait-on attendre autre chose d'une pareille indulgence ? Par Dieu, ma sœur, répondit-il, vous suffiriez pour rendre fou l'homme le plus sage. Ai-je eu de l'indulgence pour elle ? Lui ai-je laissé faire sa volonté ? Pas plus tard qu'hier soir, je l'ai menacée, si elle me désobéissait, de la confiner dans sa chambre, au pain et à l'eau pour le reste de sa vie. Vous lasseriez la patience de Job. Entendit-on jamais pareille chose sur la terre ? Répliqua-t-elle. Mon frère, si je n'avais pas la patience de 50 Job, vous me feriez oublier toute décence et tout décorum. Pourquoi vous en êtes-vous mêlé ? Ne vous ai-je pas demandé, ne vous ai-je pas supplié de me laisser tout faire ? Vous avez détruit toutes les opérations de la campagne par une seule fausse marche. Un homme, dans son bon sens, aurait-il provoqué une fille par de telles menaces ? Combien de fois ne vous ai-je pas dit que les femmes anglaises ne doivent pas être traitées comme des esclaves syracassiennes ? Ne sommes-nous pas suffisamment protégés et défendus par la société ? Il faut nous gagner par des moyens doux, et non nous menacer, nous quereller et nous battre pour nous forcer à la complaisance. Dieu merci, la loi salique n'est point en vigueur ici. Mon frère, vous avez une rudesse dans vos manières que nulle autre femme que moi ne pourrait supporter. Je ne m'étonne pas si la terreur et l'effroi ont forcé ma nièce à prendre ce parti. Et de bonne foi, je pense qu'elle en sera pleinement justifiée aux yeux du monde. Je vous le répète encore, mon frère, vous devez vous consoler en vous rappelant que tout cela est votre faute. Combien de fois vous ai-je conseillé ? Ici, Weston se leva précipitamment de son fauteuil, et après avoir vomi deux ou trois imprécations des plus horribles, sortit en hâte du parloir. Dès qu'il fut parti, sa sœur parla contre lui avec plus d'amertume encore, s'il est possible, qu'en sa présence, en appelant toujours à M. Blifil, qui, avec une grande complaisance, acquiesçait entièrement à tout ce qu'elle disait, mais excusait toutes les fautes de M. Weston. Il ne faut les considérer, disait-il, que comme provenant d'un amour paternel un peu trop démesuré, et qui ne mérite d'autre nom que celui d'une aimable faiblesse. « Il en est d'autant plus inexcusable, répondit la dame, car de qui cause-t-il la perte par son aveugle tendresse ? De sa propre fille. » Ce dont Blifil convint sur le champ. Mrs. Weston témoigna alors le plus tendre intérêt à M. Blifil et lui exprima tout son chagrin du traitement qu'il avait reçu d'une famille à laquelle il voulait faire un si grand honneur. À ce sujet, elle traita la folie de sa nièce avec une grande sévérité, mais elle finit par rejeter le tout sur son frère, qui, dit-elle, était inexcusable de s'être ainsi avancé sans avoir une plus parfaite assurance du consentement de sa fille. « Mais il a toujours été, ajouta-t-elle, d'un caractère violent et entêté, et je regrette tous les conseils que je lui ai prodigués. » Après une longue conversation de ce genre, qui probablement n'intéresserait pas beaucoup le lecteur si nous la rapportions ici tout entière, M. Blifil prit congé et s'en retourna chez lui, fort peu satisfait de son aventure. Cependant, la philosophie qu'il tenait de Square, la religion que Thwackum lui avait inspirée, et quelque autre chose encore, lui apprirent à supporter cet événement beaucoup mieux que des amants plus passionnés ne supportent communément ces sortes de malheurs. Chapitre 9. Fuite de Sophie. Il est temps maintenant de nous occuper de Sophie que le lecteur, s'il l'aime seulement la moitié autant que nous, se réjouira de voir échapper les griffes d'un père passionné et de celles d'un amant sans passion. La plume de fer qui écrit les heures sur le registre du temps avait 12 fois fait retentir l'airain sonore pour avertir les esprits de se lever et de se mettre en marche pour faire leur ronde ordinaire. En langage plus simple, il était minuit, et toute la maison, comme nous l'avons dit, était ensevelie dans l'ivresse et dans le sommeil, excepté Mrs. Weston, qui était profondément enfoncée dans la lecture d'un pamphlet politique, et notre héroïne, qui en ce moment descendait tout doucement l'escalier, et qui, après avoir ôté la barre d'une des portes de la maison et l'avoir ouverte, sortait précipitamment et se hâtait de se rendre au lieu du rendez-vous. Nonobstant toutes les petites ruses que les dames mettent souvent en usage pour intéresser à leur peur dans les toutes petites occasions, et elles en emploient presque autant à la montrer que les hommes à cacher la leur, il y a certainement un degré de courage qui non seulement sied à une femme, mais lui est souvent nécessaire pour lui donner la force de remplir son devoir. C'est en effet la cruauté et non le courage qui altère la beauté du caractère féminin. Car qui peut lire l'histoire de la malheureuse Harry, si justement célèbre, sans concevoir une aussi haute opinion de sa douceur et de sa tendresse que de son courage? Il est peut-être, en même temps, plus d'une femme qui, alors qu'elle jette un cri d'effroi à la vue d'une souris ou d'un rat, serait capable d'empoisonner son mari, ou, ce qui est pis encore, de le contraindre à s'empoisonner lui-même. Sophie, avec toute la douceur qu'une femme peut avoir, avait tout le courage que son sexe devait avoir. Quand elle arriva donc au rendez-vous, et qu'au lieu d'y rencontrer sa femme de chambre, comme cela était convenu, elle vit venir droit à elle un homme à cheval, elle ne cria ni ne s'évanouit. Non que son pouls ne battît alors avec sa régularité ordinaire, car elle eut d'abord un sentiment de surprise et de crainte. Mais il disparut bientôt, lorsque l'homme, ôtant son chapeau, lui demanda très respectueusement si madame ne s'attendait pas à trouver là une autre dame, et l'informa ensuite qu'il était envoyé pour la conduire à cette dame. Il était impossible que Sophie soupçonnât la moindre perfidie dans ce discours. Elle monta donc hardiment à cheval derrière le messager, qui la conduisit saine et sauve à une ville distante de 5 000 environ, où elle eut la satisfaction de trouver la bonne Mrs. Honora. L'âme de la dite femme de chambre, étant aussi étroitement unie à ses vêtements que ceux-ci l'étaient ordinairement à son corps, elle n'avait pu absolument se résoudre à les perdre de vue. Elle les avait donc gardées en personne, pendant qu'elle dépêchait à sa maîtresse le susdit messager, après lui avoir donné toutes les instructions convenables. Elles délibérèrent alors sur le chemin qu'elles devaient prendre pour éviter la poursuite de M. Weston, qui, elles n'en doutaient pas, ferait courir après elles dans quelques heures. La route de Londres avait tant de charme pour Honora qu'elle voulait la prendre sur le champ, alléguant que la fuite de Sophie ne pouvant être connue avant 8 ou 9 heures du matin, ceux qu'on enverrait à sa poursuite ne pourraient la rattraper quand même ils connaîtraient le chemin qu'elle aurait pris. Mais Sophie avait trop à risquer pour mettre quelque chose au hasard, et elle n'osa pas se fier à ses membres délicats dans une contestation que la vitesse seule devait décider. Elle se détermina donc à voyager à travers champs pendant 20 ou 30 milles au moins, et à prendre ensuite la grande route de Londres. Ainsi, ayant loué des chevaux pour faire 20 milles sur une route, tandis qu'elle avait le projet d'en faire 20 sur une autre, elle partit avec le même guide, derrière lequel elle était venue de la maison de son père. Le guide ayant pris, à la place de Sophie, une charge beaucoup plus lourde et beaucoup moins agréable, je veux dire l'énorme porte-manteau bien rempli de ses ornements extérieurs, au moyen desquels la belle Honora espérait faire un grand nombre de conquêtes, et finalement sa fortune dans la ville de Londres. Quand ils eurent fait environ 200 pas sur la route de Londres, Sophie s'approcha du guide, et avec une voix plus remplie de miel que ne le fut jamais celle de Platon, qu'on a comparée à une ruche, elle l'engagea à prendre le premier détour qui conduisait à Bristol. Lecteur, Je ne suis pas superstitieux et n'ai pas grande foi aux miracles modernes. Je ne donne donc pas le fait suivant comme certains, car en vérité j'ai de la peine à le croire moi-même. Mais en qualité d'historien, la fidélité m'oblige à raconter ce qui m'a été positivement affirmé. On rapporte donc que le cheval, sur lequel le guide était monté, fut si charmé de la voix de Sophie qu'il s'arrêta tout court et témoigna de la répugnance à aller plus loin. Le fait peut être vrai, cependant, sans être aussi miraculeux qu'on l'a représenté, puisqu'il peut être l'effet d'une cause naturelle. Attendu que le guide, ayant en ce moment interrompu l'action continuelle de son talon droit, armé d'une petite roue à pointe, il est possible que cette omission seule ait fait arrêter la bête, d'autant plus que cela lui arrivait très fréquemment dans d'autres occasions. Mais si la voix de Sophie produisit réellement quelque effet sur le cheval, elle en eut fort peu sur celui qui le montait. Il répondit avec une sorte d'insolence que son maître lui avait ordonné de prendre une route différente et qu'il perdrait sa place s'il en prenait une autre. Sophie, voyant que toutes ces instances ne produisaient aucun effet, se mit en devoir d'ajouter à sa voix des charmes plus grands encore, charmes qui, suivant le proverbe, font trotter la vieille jument qui ne veut plus avancer. Charmes auxquels les siècles modernes ont attribué toute cette force irrésistible que les anciens prêtaient à la parfaite éloquence. En un mot, elle promit qu'elle le récompenserait au-delà de ses espérances. Le guide ne fut pas tout à fait sourd à cette promesse, mais il n'aimait pas qu'elle fût indéfinie, car, quoiqu'il n'eût peut-être jamais entendu prononcer ce mot, c'était cependant là sa seule objection. Il répondit que les gens de qualité ne considéraient pas la position des pauvres gens, qu'il avait failli être mis l'autre jour à la porte pour avoir couru à travers champs avec un gentilhomme qui revenait de chez M. Allworthy et qu'il ne l'avait pas récompensé comme il l'aurait dû. « Avec qui ?» dit Sophie avec vivacité. « Avec un gentilhomme qui revenait de chez M. Allworthy, » répéta le guide. « Le fils de ce seigneur. C'est ainsi, je crois, qu'on l'appelle. »« Où ? Quel chemin a-t-il pris ?» dit Sophie. « Un peu du côté de Bristol, à 20 000 d'ici environ, » répondit le guide. « Conduis-moi au même lieu, » dit Sophie, « et je te donnerai une guinée ou deux si une ne suffit pas. »« Sûrement, » dit le guide, « cela en vaut bien deux en conscience, si madame considère à quoi je m'expose. »« Mais, cependant, si madame veut bien me promettre deux guinées, je le risquerai. » »« Sûrement, c'est une vilaine chose d'aller ainsi de côté et de l'autre, avec les chevaux de mon maître, mais ce qui me console, c'est que je ne peux être mis qu'à la porte, et deux guinées m'en dédommageront du moins un peu. » Le marché ainsi conclu, le guide fit un détour et prit la route de Bristol, pressé par Sophie qui n'avait d'autre but que d'aller à la poursuite de Jones, malgré les vives remontrances de Mrs. Honora, qui avait beaucoup plus d'envie de voir Londres que de voir M. Jones. Il faut avouer qu'elle ne le servait pas auprès de sa maîtresse, depuis qu'il s'était rendu coupable de quelque négligence dans certaines civilités pécuniaires qui sont dues, d'après l'usage, aux dames chambrières dans toutes les affaires d'amour, et plus spécialement dans celles d'une nature clandestine. Ce que nous devons imputer à l'incurie de son caractère, plutôt qu'à aucun défaut de générosité. Mais elle l'attribuait peut-être à ce dernier motif. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle le haïssait de tout son cœur sous ce prétexte, et était bien décidée à saisir toutes les occasions de le desservir auprès de sa maîtresse. Il fut donc extrêmement malheureux pour elle d'avoir été conduite à la même ville et à la même auberge d'où Jones était parti. Beaucoup plus malheureuse encore d'avoir rencontré le même guide à qui Sophie devait par hasard la découverte qu'elle venait de faire. Nos voyageuses arrivèrent à la pointe du jour à Hembrook, où Honora, contre son gré, fut chargée de s'informer de la route que M. Jones avait prise. Le guide lui-même aurait fort bien pu les en instruire, mais Sophie, je ne sais pourquoi, ne lui en fit pas la question. Quand Mrs. Honora eut fait le rapport de ce que l'hôte lui avait dit, Sophie se procura avec beaucoup de difficulté des chevaux assez mauvais qui la conduisirent à l'auberge où Jones avait été confiné plutôt par le malheur d'avoir rencontré un chirurgien que par celui d'avoir eu la tête cassée. Honora, encore chargée de prendre des informations en cet endroit, ne se fut pas plutôt adressée à l'hôtesse et n'eut pas plutôt fait le portrait de M. Jones que cette femme pénétrante commença à se douter de quelque chose. Aussi, dès que Sophie entra, Au lieu de répondre à la femme de chambre, l'hôtesse, s'adressant à la maîtresse, commença le discours suivant. « Bonté du ciel, qui l'aurait jamais cru ? Je proteste que l'on n'a jamais vu un plus beau couple. Sur ma parole, madame, il ne faut pas s'étonner que le gentilhomme poursuive ainsi madame. Il m'a dit en effet que vous étiez la plus belle dame du monde, et sûrement vous l'êtes. Que le ciel ait pitié de lui, le pauvre jeune homme. Je l'ai bien plaint, oh oui, surtout quand il serrait son oreiller entre ses bras et l'appelait sa chère madame Sophie. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le dissuader d'aller à la guerre. Je lui ai dit qu'il y avait assez d'hommes qui n'étaient bons à rien autre chose qu'à être tués et qui n'étaient pas aimés par d'aussi belles dames. Sûrement, dit Sophie, la bonne femme est folle. Non, non, s'écria l'hôtesse, je ne suis point folle. Madame croit donc que je ne sais rien? Je vous assure qu'il m'a tout dit. Quel insolent a pu vous dire quelque chose de ma maîtresse? S'écria Honora. Il ne s'agit point d'insolent, répondit l'hôtesse, mais du jeune gentilhomme sur lequel vous avez pris des informations. Et c'est un jeune gentilhomme bien joli, et il aime madame Sophie Weston de tout son cœur. Il aime ma maîtresse. C'est moi qui vous le dis, bonne femme, sachez que ma maîtresse est un morceau de maître. Honora, dit Sophie en l'interrompant, ne vous fâchez pas contre cette bonne femme, elle ne songe pas à mal. Oh, mon Dieu, non, répondit l'hôtesse, enhardie par les doux accents de la voix de Sophie. Alors elle entreprit de nouveau un long discours, trop ennuyeux pour être rapporté ici, dans lequel elle laissa échapper quelques expressions qui offensèrent un peu Sophie, et beaucoup plus sa femme de chambre, qui prit de là occasion de calomnier le pauvre Jones auprès de sa maîtresse. Aussitôt qu'elles se trouvèrent seules, en disant qu'il fallait être un grand misérable et ne pas aimer une femme pour prostituer ainsi son nom dans un cabaret. Sophie ne voyait pas la conduite de Jones sous un jour à beaucoup près aussi défavorable, et était peut-être plus charmée des violents transports de son amour, que l'hôtesse avait exagéré autant que tout le reste, qu'offensée de quelques autres circonstances. Elle imputait le tout à l'extravagance, ou plutôt à l'effervescence de sa passion, et à la noble franchise de son cœur. Quoi qu'il en soit, cet accident rappelé par la suite à son esprit et présenté par Honora sous les plus odieuses couleurs servit à donner plus de poids et de crédit à cette malheureuse aventure d'Upton et aida les efforts que fit la femme de chambre pour engager sa maîtresse à quitter l'auberge sans voir Jones. L'hôtesse, voyant que Sophie n'avait le projet de séjourner chez elle que le temps nécessaire pour que les chevaux fussent prêts, et cela sans boire ni manger, se retira bientôt. Honora se mit alors à gronder sa maîtresse, car il faut convenir qu'elle se permettait avec elle de grandes libertés, et après un long discours dans lequel elle lui rappela l'intention où elle était de se rendre à Londres, et lui fit souvent sentir l'inconvenance de courir après un jeune homme, elle conclut par cette réflexion sérieuse « Au nom du ciel, madame, songez à ce que vous faites et où vous allez. » Cet avis à une jeune personne qui avait déjà fait près de 40 000 à cheval, et dans une saison qui n'était pas fort agréable, peut paraître assez ridicule. On peut supposer qu'elle avait tout considéré avant de prendre son parti. Mrs. Honora, par quelques expressions qu'elle avait laissées échapper, en paraissait persuadée elle-même, et je ne doute pas que ce ne soit l'opinion d'un grand nombre de mes lecteurs, qui sûrement ont prévu depuis longtemps le projet de notre héroïne, et lui ont déjà, dans le fond du cœur, donné le nom d'une petite écervelée. Mais dans le fait, ce serait être injuste à son égard. Sophie avait été si agitée depuis quelque temps entre la crainte et l'espérance, tellement partagée entre son devoir, sa tendresse pour son père, sa haine pour Blifil, sa compassion, et pourquoi ne le dirions-nous pas, son amour pour Jones, rendu plus violent par la conduite de son père, de sa tante, de tout le monde, et surtout de Jones lui-même, que son esprit était tombé dans cet état de confusion qui ne nous permet pas de savoir ce que nous faisons et où nous allons, ou plutôt qui nous rend tout à fait indifférents sur les conséquences qui peuvent en résulter. Les avis sages et prudents de sa femme de chambre produisirent néanmoins quelques réflexions plus calmes. Sophie se détermina enfin à se rendre à Gloucester pour aller de là directement à Londres. Mais malheureusement, quelques milles avant cette première ville, elle rencontra ce mauvais procureur dont nous avons parlé et qui y avait dîné avec M. Jones. Comme il était bien connu de Mrs. Honora, il s'arrêta pour lui parler. Sophie n'y fit pas alors d'autre attention que de demander qui il était. Mais à son arrivée à Gloucester, ayant reçu de Mrs. Honora des informations plus détaillées sur cet homme, et instruite de la manière expéditive dont il voyageait habituellement, ce qui, comme nous l'avons déjà observé, lui avait fait une sorte de réputation, se rappelant aussi qu'elle avait entendu Mrs. Honora lui confier qu'elles allaient à Gloucester, elle commença à craindre que, par le moyen de cet homme, son père ne pût suivre ses traces jusqu'à cette ville, et que si elle prenait sur le champ la route de Londres, il ne l'atteignit infailliblement. Elle changea donc de résolution, et après avoir loué des chevaux pour un voyage de 8 jours, sur une route qu'elle n'avait pas dessein de suivre, elle poursuivit son chemin, malgré le désir et les vives instances de sa femme de chambre, et les remontrances non moins pressantes de Mrs. Whitefield, qui, par civilité, ou peut-être par bon naturel, car la pauvre Sophie paraissait bien fatiguée, l'exhorta vivement à passer cette nuit à Gloucester. Après avoir pris une seule tasse de thé, et s'être reposée environ 2 heures sur un lit, pour laisser le temps de préparer ses chevaux, elle quitta décidément Mrs. Whitefield sur les 11 heures du soir, et suivant la route de Worcester, elle arriva en moins de 4 heures à l'auberge où nous venons de la voir. Après avoir ainsi tracé très exactement la route de notre héroïne, depuis son départ jusqu'à son arrivée à Hampton, nous allons en très peu de mots conduire son père au même lieu. Ayant été mis sur la première voie par le postillon qui avait conduit sa fille à Hambrook, il n'avait pas eu de peine à la suivre jusqu'à Gloucester, et de là à Hampton, instruit que M. Jones avait pris cette route. Car Partridge, pour me servir d'une expression familière à M. Weston, laissait une forte odeur partout après lui, et il n'avait pas le moindre doute que Sophie n'eût suivi le même chemin. Ou, pour parler encore son langage, n'eût couru sur ses traces. Je dois avouer même qu'il se servait d'une expression très grossière qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ici, d'autant que les chasseurs, qui seuls pourraient la comprendre, la devineront aisément. Fin du livre 10e.